VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 12 septembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République centrafricaine, Médecins sans frontières signale la mort de 8 personnes depuis jeudi à Batangafo dans le nord-ouest.
En République démocratique du Congo, la société civile propose son propre calendrier électoral.
La France a appelé hier le président tchadien Idriss Déby Itno à annoncer prochainement un calendrier pour les législatives.
En Guinée, les élections locales attendues depuis 2005 ne devraient pas avoir lieu d'ici à la fin de l'année.
Au Togo, l'opposition a appelé hier ses militants et la population à de nouvelles manifestations dès ce mardi pour demander la démission du président Fornia Singbe.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une nouvelle série de sanctions économiques contre la Corée du Nord.
L'ouragan Irma a été moins destructeur que prévu en Floride, ici aux États-Unis.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, 8 personnes, dont 7 civils, ont été tuées depuis jeudi à Batangafo, dans le nord-ouest du pays. C'est ce qui ressort d'un bilan provisoire de Médecins sans frontières, seule ONG encore présente dans la localité où près de 30 000 personnes sont privées d'aide humanitaire. Selon MSF, des civils venant chercher refuge à l'hôpital se sont fait tirer dessus, parmi eux une adolescente de 15 ans, morte sur le coup jeudi, tout comme un enfant de 2 ans et 2 autres personnes. Elle ajoute que 3 victimes ont succombé à leurs blessures ce week-end.
L'attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés fait suite au meurtre jeudi d'un journalier travaillant pour une ONG, explique MSF, qui condamne ces attaques à l'encontre des populations civiles et des travailleurs humanitaires.
En République démocratique du Congo, la société civile propose son propre calendrier électoral, invitant les autorités de Kinshasa à faire de même afin de sortir le pays du statu quo. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Selon ce chronogramme fictif de la société civile, l'élection présidentielle aurait lieu le 31 décembre avec convocation du corps électoral au 1er octobre 2017 et une campagne électorale du 1er au 30 décembre. Abraham Diamba, coordonnateur d'une plateforme qui regroupe plusieurs organisations congolaises de défense des droits de l'homme, invite la commission électorale à lever les incertitudes ambiantes sur la tenue des élections devant, selon lui, mettre fin à la crise de légitimité institutionnelle que connaît le pays depuis fin 2016. Pour la société civile, cette proposition du calendrier tient compte des délais convenus dans un accord pouvoir-opposition prévoyant la présidentielle fin 2017. Les autorités congolaises ont récemment promis de publier incessamment un calendrier électoral réaliste après avoir recensé plus de 40 millions d'électeurs, soit près de 99% du corps électoral. Le recensement n'a cependant pas encore commencé dans la région troublée du Kasaï. La RDC traverse une crise politique liée au maintien au pouvoir de M. Kabila, dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se représenter.
La France a appelé hier le président tchadien Idriss Déby Itno à annoncer prochainement un calendrier pour les élections législatives. Bagassi Koura.
Les législatives avaient été repoussées sine die en février dernier par le président Déby au pouvoir depuis 1990 et réélu pour un cinquième mandat en avril 2016 à l'issue d'un scrutin contesté. Arguant d'un manque de moyens, le chef de l'État avait déclaré que les élections législatives n'auraient pas lieu avant 2019, suscitant la colère de l'opposition. Les élections législatives sont un moment important dans la vie démocratique. Nous espérons à cet égard que les autorités tchadiennes, dont c'est la responsabilité exclusive, seront en mesure d'annoncer prochainement un calendrier. Déclaration d'une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Allié stratégique de la France dans la lutte contre les djihadistes au Sahel, le Tchad a bouclé vendredi dernier à Paris une opération de séduction auprès des investisseurs qui ont promis, selon lui, quelque 20 milliards de dollars pour relancer son économie, une économie plombée par la fin du mirage pétrolier.
En Guinée, les élections locales, réclamées par l'opposition et attendues depuis 2005, ne devraient pas avoir lieu d'ici à la fin de l'année, a-t-on appris après une réunion lundi du comité de suivi du dialogue interguinéen. Des élections locales, les premières depuis 12 ans, auraient dû se tenir en février, en vertu d'un accord conclu en octobre 2016, dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier patine, malgré les manifestations organisées par l'opposition pour exiger du président Alpha Condé le respect de ses accords.
Au Togo, l'opposition, qui avait massivement mobilisé la semaine dernière, a appelé lundi ses militants et la population à de nouvelles manifestations dès ce mardi pour demander la démission du chef de l'État. Elle dit ne plus croire aux promesses de réforme constitutionnelle du gouvernement. La plupart des partis d'opposition du pays réclament depuis plus de 10 ans des réformes pour limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels et aussi un scrutin à 2 tours. La constitution togolaise de 1992 a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par le général Gnassingbé Eyadema, qui, en 2002, avait supprimé la limite à 2 mandats présidentiels.
En Égypte, au moins 18 personnes ont été tuées hier dans le nord du Sinaï lors d'une attaque contre des forces de sécurité revendiquées par le groupe État islamique. 8 soldats égyptiens sont morts et 4 véhicules blindés ont été détruits, a indiqué l'organisation djihadiste via son agence de propagande Hamak, alors que des sources médicales et sécuritaires ont, elles, fait état d'un bilan de 18 morts.
2 agences de l'ONU ont averti hier dans un rapport que plus de 3/4 des enfants et jeunes adultes tentant de migrer vers l'Europe, par la Méditerranée centrale, sont victimes d'abus lors de leurs dangereux périples. L'UNICEF et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, s'inquiètent en particulier du sort des migrants originaires d'Afrique subsaharienne dans ce rapport basé sur des témoignages de quelques 22 000 migrants et réfugiés, incluant quelques 11 000 enfants et jeunes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une nouvelle série de sanctions économiques draconiennes contre la Corée du Nord en réaction à son test nucléaire du 3 septembre. Aujourd'hui, nous disons que nous n'accepterons jamais une Corée du Nord dotée d'armes nucléaires, a déclaré hier devant le Conseil de sécurité la représentante permanente des États-Unis, Nikki Haley. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité dit que si le régime nord-coréen ne met pas un terme à son programme nucléaire, nous agirons pour la arrêter nous-mêmes, a ajouté Mme Haley.
Nous ne cherchons pas la guerre, a-t-elle assuré, déclarant que la Corée du Nord n'avait pas encore franchi un point de non-retour. Selon elle, les clauses de la résolution réduiront de manière drastique les moyens de Pyongyang de financer et d'alimenter ses programmes nucléaires et de missiles balistiques. Il est prévu, entre autres, une réduction d'un tiers des importations de pétrole de la Corée du Nord, importation que Mme Haley considère comme vitale pour le succès de ses programmes.
L'ouragan Irma a été moins destructeur que prévu en Floride, ici aux États-Unis, même si son passage a laissé des millions de personnes sans électricité et des routes impraticables, compliquant le retour chez eux des évacués. Les mauvaises nouvelles sont venues en revanche de Cuba, à seulement 150 kilomètres de la Floride. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Au moins 10 personnes sont mortes dans plusieurs provinces de Cuba, portant le nombre de victimes à 40 de morts dans les Caraïbes. Le Venezuela a annoncé l'envoi de 10 tonnes d'aide à son allié cubain. En Floride, le bilan humain a été actualisé lundi à 2 victimes, contre 3 auparavant qui ont perdu la vie dans des accidents de la route. 6,2 millions de Floridiens sont toujours privés d'électricité et Irma, désormais rétrogradée en tempête tropicale, se trouvait lundi dans le sud de la Géorgie avec des vents faiblissant à 85 km/h et devait prendre mardi la direction de l'Alabama. Des inondations soudaines sont encore à craindre dans les prochains jours. Les dégâts sont estimés entre 20 et 60 milliards de dollars, selon plusieurs experts en assurance. L'aéroport international de Miami, qui a connu des inondations, a été fermé et ne devrait reprendre qu'un service limité à partir d'aujourd'hui. Le président américain Donald Trump, qui a proclamé dimanche l'état de catastrophe naturelle en Floride, a annoncé qu'il se rendrait très vite dans l'état.
Le cap des 300 000 musulmans Rohingyas réfugiés depuis le 25 août au Bangladesh pour fuir les violences en Birmanie a été franchi. C'est ce qu'a estimé lundi l'ONU en dénonçant, je cite, un exemple classique de nettoyage ethnique. Le Dalai Lama en personne a exhorté la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, comme lui, à trouver une solution pour les Rohingyas. Plus grande population apatride au monde avec un total d'environ 1 million de personnes. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain sur ce dossier à la demande du Royaume-Uni et de la Suède.
En Arabie Saoudite, les autorités ont annoncé hier que deux kamikazes yéménites, membres de l'organisation État islamique, qui planifiaient des attaques contre des bâtiments militaires à Riyad, ont été arrêtés avant d'avoir pu passer à l'acte. L'opération de la police saoudienne, dont la date n'a pas été précisée, a permis d'arrêter les deux kamikazes avant qu'ils n'atteignent leur cible. Fin de citation. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho.
En Algérie, le gouvernement vient d'annoncer la création de 50 nouvelles zones industrielles afin d'attirer les investisseurs vers le foncier. L'agence Ecofin relaie que les autorités algériennes souhaitent faciliter l'accès des investisseurs nationaux et étrangers au foncier industriel. Une approche nouvelle sera mise en place à travers un système de concessions aux opérateurs locaux. Grâce à la création de ces zones industrielles, le gouvernement va pouvoir résoudre les difficultés administratives et les obstacles techniques auxquels font face les investisseurs lors d'acquisition ou de location d'espaces industriels. Importante saisie de diamants en Tanzanie. Selon l'AFP, le gouvernement a choisi de nationaliser ces diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars après avoir accusé la compagnie britannique Petra Diamonds, propriétaire à 75% de la mine, d'en avoir sous-évalué la valeur. La Guinée signe un accord de 20 milliards de dollars avec la Chine. Selon Reuters, il s'agit d'un accord cadre qui établit l'octroi de concessions minières guinéennes à des entreprises chinoises en échange de financement d'infrastructures. Les fonds seront décaissés par tranches successives entre 2017 et 2036. L'accord prévoit plusieurs projets, parmi lesquels une raffinerie d'alumine et deux mines de bauxite situées près de Bofa, une ville à l'ouest de la Guinée.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Veillée d'armes avant la phase de poule de la Ligue des Champions qui démarre ce mardi en Europe.
Tout à l'heure dans le groupe A, toujours leader de la Première Ligue en Angleterre, Manchester United accueille le FC Bâle, champion de Suisse depuis 8 ans. Et une réception dont devront se méfier les Red Devils qui pourront compter sur Romelu Lukaku, auteur d'un but ce week-end lors du match nul de partout à Stoke City. Autre rencontre de ce groupe, Benfica contre le CSKA Moscou. Dans le groupe B, le Paris Saint-Germain, après son recrutement pharaonique en déplacement chez le Celtic Glasgow, Neymar sera la vedette pour permettre à son nouveau club de remporter enfin la Ligue des Champions. L'autre rencontre de ce groupe, Anderlecht, en déplacement à l'Allianz Arena du Bayern Munich. Dans le groupe C, le petit poussé Karabakh d'Azerbaïdjan se déplace à Chelsea et le champion d'Angleterre en titre qui va faire tourner son effectif selon la formule consacrée hier en conférence de presse de son entraîneur Antonio Conte. Le meneur de jeu vedette Eden Hazard, seulement remplaçant ce week-end, devrait à nouveau prendre place sur le banc. Et surtout, au stade olympique, l'AS Rome qui accueille l'Atlético Madrid, le vice-champion d'Italie se méfiera d'Antoine Griezmann. Dans le groupe D, le feu d'artifice de cette première journée au Camp Nou, le Barça accueille la Juventus Turin. Les Blaugrana et leur nouvelle recrue Dembélé auront à cœur de montrer qu'ils sont toujours des grands d'Europe. En face, la Juventus de Turin, finaliste malheureux de l'édition 2017, voudra montrer qu'elle a de l'ambition. Et puis enfin, Olympiakos face au Sporting Portugal. Ce sera le dernier match de ce groupe D.
Et demain, d'autres belles affiches.
Et oui, dans le groupe E à Anfield Road, Liverpool, FC Séville, les Reds, corrigés 5-0 ce week-end en championnat, devront réagir. Manchester City, auteur de cette correction, se déplace de son côté chez le Feyenoord Rotterdam dans le groupe F. Dans le groupe G, le champion de France en titre Monaco, orphelin de Kylian Mbappé, parti au PSG, se rendra en Pologne pour affronter Leipzig. Enfin, dans le groupe H, le Real Madrid à la peine en championnat sans Cristiano Ronaldo, suspendu, contrat sur sa star portugaise pour dynamiter la défense de la Poel, Nicosie.
Afrobasket 2017, pas de match ce mardi avant les quarts de finale.
Eh oui, ils auront lieu jeudi à Tunis, Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Égypte et Tunisie-RDC.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, cérémonie solennelle hier pour commémorer l'anniversaire des attentats terroristes du 11 novembre 2001 à New York et à Washington. Des kamikazes d'Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden avaient alors détourné 4 avions de ligne pour attaquer les tours jumelles du World Trade Center à New York et le département américain de la défense, le Pentagone, ici à Washington. L'avion qu'ils allaient utiliser pour une troisième attaque aux États-Unis s'était écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Le bilan de ces attaques, plus de 2900 morts. Nous revenons sur cette journée de commémoration avec Gaby Dorsil.
C'est à la Maison-Blanche que Donald Trump a invité la nation, pour la première fois en tant que président, à observer un moment de silence en mémoire de cet événement tragique, les attaques du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Il était 8h40 du matin lorsque le premier appareil détourné par les terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé contre le World Trade Center à New York. 23 minutes plus tard, un deuxième avion frappait le bâtiment, symbole du capitalisme américain. Les deux tours se sont effondrées peu après à la stupéfaction de millions de téléspectateurs à travers le monde. En parlant des victimes, le président Trump a déclaré « Nous les pleurons, nous les honorons et nous nous engageons à ne jamais les oublier ». Au Pentagone, vous savez, j'ai toujours l'impression que ce sol est sacré. J'étais ici le 11 septembre, se souvient le journaliste Jamie McIntyre.
I stood here on September 11th.
Le 11 septembre 2001, sur les lieux de cette attaque non loin de Washington, il expliquait aux téléspectateurs ce qui venait de se produire. C'était un moment de choc pour la nation tout entière.
And to someone who lived through it, it's kind of a defining moment in your life.
Et dit McIntyre, pour quelqu'un qui a vécu cet événement tragique, c'est un moment décisif. James Leshak, le président du fonds spécial créé pour commémorer l'événement, le Pentagon Memorial Fund, a perdu son jeune frère le 11 septembre 2001.
There were 184
Il y a eu 184 morts au Pentagone ce jour-là, 125 dans l'immeuble et 59 dans l'avion, rappelle Leshak.
The benches are also arranged according to the flight path of the plane.
L'organisation mise sur pied par James Leshak explique ce que comporte le monument érigé au Pentagone. Rien n'a été oublié. L'âge des victimes, comment elles ont été tuées. Des bancs sont arrangés selon la direction de l'avion. On peut voir exactement le point de l'impact.
The designers wanted a place like no other because 9/11 was like a day like no other.
Comme l'a dit le président américain Donald Trump, ce jour-là, le monde a changé. Mais nous avons aussi tous changé. Ces attaques qui avaient traumatisé le pays ont poussé les États-Unis à lancer une vaste offensive militaire en Afghanistan pour déloger le régime taliban au pouvoir qui protégeait les commanditaires des attentats. Cette guerre se poursuit 16 ans après.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Mali, la Commission des bons offices demande l'implication du président Ibrahim Boubacar Keïta pour obtenir la libération de certaines personnes, je cite, « injustement détenues ». Selon la commission, ces prisonniers sont innocents et n'ont rien à voir avec les terroristes qui opèrent au Mali. Lors de leur rencontre avec le président malien, les membres de cette commission ont mis l'accent sur les actions de sensibilisation, le retour de l'État dans les localités abandonnées, mais aussi sur la paix, la réconciliation et le vivre ensemble entre les différentes communautés. Le point avec Kassim Traoré.
La mission des bons offices a été mise en place pour Kidal, le Delta central et la boucle du Niger, là où il y a encore des terroristes qui sévissent. Leur mission est de parler aux Maliens afin d'asseoir une véritable paix dans les cœurs et les esprits. À Koulouba, l'imam Mahmoud Diko, président de la commission des bons offices, était venu faire la restitution de leur forum qui a porté sur la contribution des notabilités traditionnelles, les maîtres coraniques au retour de la paix et à la quiétude dans le Delta central et la boucle du Niger.
Se mettre ensemble, se concerter, parler avec les acteurs qui vivent sur ces lieux-là pour demander eux-mêmes leur impression par rapport à la solution de sortie de crise. Parler aussi de problématiques des écoles coraniques. Vous savez, c'est des milliers, voire des millions d'enfants qui sont éduqués, qui sont instruits dans ce secteur, mais en réalité, l'État n'a aucun droit de regard sur ce qui se fait. Nous devons penser qu'aujourd'hui, vu la situation sécuritaire dans notre pays, et ce qui se vit à travers le monde même aujourd'hui, serait responsable, en tout cas, pour nous d'avoir un regard sur ces enfants.
Au nom de la communauté PIL, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aliou Ndiallo, a pris la parole.
Je remercie le chef de l'État d'avoir accordé tant d'importance aux écoles coraniques, tant d'importance au delta intérieur du Mali, à certains cercles de la région de Ségou, où la violence s'exerce aujourd'hui. Tant qu'on ne résoudra pas la violence qui s'exerce aujourd'hui dans l'Adrar des Ifouras, il est extrêmement difficile de résoudre les problèmes du delta intérieur, les problèmes sont liés.
Les recommandations formulées par la mission de bons offices ont été présentées au chef de l'État par leur porte-parole, Maître Hassan Bari. Il a insisté sur la libération de certaines personnes arrêtées.
Nous avons entendu durant ces deux jours beaucoup de personnes, des marabouts, des imams, des simples citoyens qui sont venus nous dire: nous avons un nombre important de gens qui sont détenus. Nous souhaiterions que le forum adresse au président de la République une demande. Et celle-là, je vous l'assure, c'est une demande forte venant de la base. Nous voudrions que vous vous impliquiez afin que certains qui sont détenus, dont la situation n'exige pas une incarcération quelconque, que ces individus puissent recouvrir la liberté.
Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotion. Cette initiative du président du Haut Conseil islamique est très heureuse. Et je suis certain qu'elle va participer à l'apaisement que nous recherchons dans l'État central du Mali. Et ce que j'ai vu ici aujourd'hui, tous les fils de cette région, tous les érudits de cette région engagés dans le combat pour la paix, Inch'Allah, cette paix nous l'obtiendrons. Dans les meilleurs délais, dans la suite de mon voyage à Mopti, c'est un heureux paysage. Je remercie les protagonistes et tous ceux qui en ont été les auteurs. Et pour ma part, et pour la part du gouvernement, nous demeurons engagés pour la cause de la paix au Mali. Ce qu'ils ont dit sera examiné à l'aune des intérêts du Mali, Inch'Allah, et de la paix.
Les participants à cette restitution étaient pour la plupart des notabilités, des maîtres coraniques qui sont tous engagés à maintenir cette dynamique. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'ONG de lutte contre la corruption Global Witness accuse les autorités du Zimbabwe de détourner les profits, les bénéfices tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques, et ce malgré les sanctions de la communauté internationale. Au micro de Yacouba Ouedraogo, Allium Leroy, chargé de campagne à Global Witness.
En 2006, il y a eu la découverte d'énormément de diamants dans une région est du Zimbabwe qui s'appelle la région du Marange. Et ça a été une des plus grandes découvertes de l'histoire en termes de nombre de diamants. Et 10 ans plus tard, en 2016, le président Mugabe donne un discours dans lequel il annonce qu'il manque des milliards d'argent dans les finances publiques qui devaient provenir de ces diamants. La question est: comment est-on passé de cet espoir en 2006 à cette déception en 2016? L'argent qui provenait des mines du Marange tranche ont été accaparés par les forces de sécurité du Zimbabwe et le gouvernement. Les entreprises qui minaient le diamant sont liées ou sont sous le contrôle des forces militaires du Zimbabwe, du gouvernement et aussi du service de renseignement.
Donc cet argent provenant de l'exploitation et de la vente des diamants ne rentrait pas dans les caisses de l'État.
Le système est tellement opaque, si vous voulez, qu'il est difficile d'outir où l'argent terminait. Mais en effet, il semblerait que l'argent ait fini principalement dans le budget des forces de sécurité du Zimbabwe.
À qui on vend le diamant ?
Vous le retrouvez à Dubaï ou à Anvers. Et c'est tout là le problème. Ces diamants qui permettent de financer les forces de sécurité du Zimbabwe qui ensuite, elles, commettent des violations des droits de l'homme. Là, on a un problème vis-à-vis de la définition du processus de Kimberley qui, lui, se borne à dire que les diamants qui ne devraient pas être vendus et qui devraient être mis sous embargo sur le marché international sont des diamants qui proviennent de groupes rebelles qui tentent de mettre fin à un État. Mais là, on a un gouvernement qui mène ces violations des droits de l'homme. Il est important que les entreprises fassent en sorte que les diamants qu'elles achètent ne financent pas des violations de droits de l'homme.
En quoi est-ce illégal pour un État, notamment le Zimbabwe dans le cas d'espèce, d'utiliser la vente de ces diamants, par exemple, pour financer ses services de renseignement?
Normalement, dans une démocratie, le service de sécurité se doit d'être neutre. Il doit être sous le contrôle du gouvernement. Et ce qui se passe avec ce financement parallèle autour du diamant qui permet aux forces de sécurité du Zimbabwe d'avoir leurs propres ressources, elles font qu'elles ne dépendent plus du gouvernement, elles ne sont plus neutres. Elles ne dépendent pas du gouvernement directement, mais c'est le gouvernement et le pouvoir en place qui leur permet d'avoir des intérêts dans les entreprises qui minent le diamant. Il y a un grand risque puisque nous avons l'élection présidentielle en 2018. Et donc l'armée a intérêt à ce que la personne qui reste au pouvoir soit le président Mugabe. Et enfin, un autre des problèmes, et ce qui est important, c'est l'impact sur le développement. C'est que cet argent qui tombe dans les poches des forces de sécurité et du service de renseignement ne tombe pas dans les mains de la population du Zimbabwe.
Vous avez mené votre enquête, le rapport il a été fait. À quoi faut-il s'attendre pour la suite?
Maintenant, on se bat pour que les entreprises mettent en place des processus pour éviter d'acheter des diamants qui proviennent du Zimbabwe. Parce que si elles font cela, elles financent des forces de sécurité qui commettent des exactions contre leur propre peuple.
Allium Leroy, chargé de campagne à Global Witness. Le monde de la musique africaine pleure. L'un de ses ardents défenseurs, Don Michael Gourou, promoteur du rythme musical ivoirien coupé-décalé, est décédé dimanche à Abidjan après une longue maladie. Philippe Michel Sihiro, alias Don Michael Gourou, avait 51 ans et souffrait d'un cancer des poumons. Qui était l'homme? Eh bien, Bagasukura a joint à Abidjan John Jay, qui est un ami de Don Michael Gourou.
C'est quelqu'un qui est issu d'une famille modeste et qui a fait donc le choix de se battre et de gagner sa vie donc à la sueur de son front. Donc très tôt, il a commencé à travailler très dur. Il a officié dans des petits endroits comme on appelle le petit bonheur où il s'est tissé des relations. Ensuite, il est parti au plateau. Il a tout de suite compris le contexte économique dans lequel se trouvait la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'il allait travailler donc au plateau dans une boîte de nuit qu'on appelait donc le Blue. C'est l'endroit où le client était vraiment le véritable roi. Et il profitait donc de ses chansons pour interpeller les gens avec ses concepts.
Parlant de concepts, on se rappelle notamment de ce titre Prudentia qui a été beaucoup joué dans les discothèques en Afrique. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ce titre-là?
Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où on a en face de nous des gens qui vous font croire qu'ils vous aiment alors que c'est l'hypocrisie totale. Donc, il faut toujours être prudent et voir le danger venir de loin. L'homme prudent voit le danger venir de loin. Donc, il faut faire attention.
Parlez-nous des rapports entre Don Mike et Doug Saga, qu'on dit qu'il était le fondateur du coupé-décalé.
Doug Saga, quand il est arrivé à Abidjan pour faire connaître son phénomène coupé-décalé, ils avaient leur concept à Paris. Mais quand ils sont arrivés à Abidjan, il leur fallait un endroit pour démontrer, partager avec les Ivoiriens. Donc, Doug Saga, pour lui, il lui fallait trouver un endroit. Et l'endroit propice pour faire la promotion du coupé décalé, dont Doug Saga était l'ambassadeur, c'était donc le temple de Don Michael qu'on appelait le Blue Note. Donc c'est là qu'ils se sont connus et puis ils ont eu à faire des soirées extraordinaires. Il y avait des soirées où on commençait à partir de 22h ou on quittait à 8h, 10h du matin. Franchement, je veux dire que c'est une grande perte pour le monde du showbiz. la perfection, la générosité, tout ce savant mélange-là était dans Michael.
C'était John Jay, un ami du regretté Don Mike le Gourou. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.